Paul est un homme qui a une trajectoire étonnante. On a tous en mémoire le grand revirement qui a été le sien, la conversion de Damas. Paul est un homme qui est pleinement issu du judaïsme, qui a grandi fidèle, comme il le dit lui-même, à la tradition de ses pères, à la tradition juive, bon connaisseur des Écritures, ce qui pour nous chrétiens est aujourd'hui l'Ancien Testament, bon connaisseur de la tradition rabbinique, et lui-même ardent défenseur de la pureté du judaïsme. Et c'était avec inquiétude qu'il voyait le christianisme naître en y voyant une sorte de déviance ou de corruption interne au judaïsme qu'il souhaitait endiguer.
Avant de rencontrer le Christ, il a martyrisé une somme importante de chrétiens. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette vie, sur son histoire personnelle?
On a assez peu d'éléments qui nous soient fournis par Paul lui-même, lequel reste assez sobre sur sa propre histoire, en tout cas ne s'étend pas, parce que celui dont il parle, c'est le Christ, et Paul ne parle pas d'abord de lui-même. Et pour autant, un trait très impressionnant et qui peut nous donner beaucoup à penser, c'est que Paul ne cache rien quand il parle de lui des zones les plus obscures ou en tout cas les moins glorieuses de son propre passé, y voyant au contraire comme des occasions de mettre encore davantage en relief la prodigieuse grâce dont Dieu l'a comblé et la miséricorde dont il a été l'objet. Alors on n'a pas les chiffres. Paul, à tout le moins, je dirais, j'hésiterais sur le terme martyrisé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des martyrs, dont des chrétiens, il n'y a pas eu de martyrs chrétiens du fait de Paul. Il y a l'épisode du premier martyr, Étienne, qui est lapidé, le jeune Paul, encore appelé Saul à ce moment-là, au terme même du Nouveau Testament, était présent, et saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, souligne, Saul approuvait ce meurtre. Donc, il y a une sorte de complicité, non pas active, mais au moins de cœur et de pensée, avec effectivement ce meurtre qui est un martyr, au plein sens du terme. Est-ce que Paul a martyrisé ensuite d'autres chrétiens? On n'a pas les chiffres, je préférerais dire, à coup sûr, il les a traités durement. Il avait des lettres de mission, il était mandaté par les autorités juives de l'époque, les grands prêtres de Jérusalem, les autorités religieuses de Jérusalem de son temps, et donc mandaté de manière tout à fait officielle par ces autorités, Paul allait de ville en ville dans des lieux importants pour mettre en état d'arrestation les chrétiens et les ramener si besoin en Jérusalem pour qu'ils soient jugés par le Sanhédrin. Je crois qu'il est important de se rappeler que même s'il y a eu quelques occasions d'homicide, j'évoquais il y a quelques secondes le martyre de Saint-Étienne, pour autant, le Sanhédrin ou la tradition judiciaire juive à l'époque de Paul est très respectueuse de la vie humaine et quand elle fonctionne bien, elle a mal fonctionné, si l'on peut dire, dans le cas du procès du Seigneur, traité de manière contraire à la loi du Sanhédrin, elle a mal fonctionné avec ce débordement qui a amené à la mise à mort d'Étienne, mais quand elle fonctionnait bien, il y avait un grand respect de la vie humaine, et donc c'était dans ce cadre extrêmement réglé par une loi juste que les chrétiens, arrêtés par Paul, qui en un sens suivait en cela sa conscience encore mal éclairée ou mal formée, les chrétiens arrêtés par Paul se retrouvaient maltraités. Combien étaient-ils? On ne sait pas, mais en tout cas, Paul était visiblement l'une des figures assez importantes de cette vague d'épuration.
Au début de ses épîtres, saint Paul s'autoproclame apôtre du Christ. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender?
Effectivement, c'est un trait tout à fait saillant ou important des épîtres, des lettres de Paul, très simplement déjà dans la tradition même des lettres, de l'art épistolaire. Paul est un homme de son temps qui suit les règles de l'art, il compose une lettre et donc quand il écrit à ses destinataires, il prend soin de se présenter. Et il se présente au mieux avec ce terme d'apôtre qui dit, selon la conscience même que Paul a de son identité, ce terme qui dit au mieux qui est Paul. Il prend soin de se présenter pour asseoir aussi l'autorité avec laquelle il s'adresse. Il le fait d'autant plus quand il s'adresse à des communautés qu'il ne connaît pas encore très bien ou qu'il n'a pas fondées. Celles dont il est le père fondateur, les Philippiens par exemple, tout va bien. Il n'a pas à réinsister beaucoup sur sa qualité. En revanche, quand il écrit à d'autres communautés, les Romains, là, Paul souligne davantage qui il est, établissant ainsi l'autorité de la parole qu'il leur adresse sur sa qualité d'apôtre. Pour autant, un point extrêmement important, si Paul énonce lui-même sa qualité d'apôtre, il prend bien soin de dire qu'il ne s'est pas attribué à lui-même ce titre, mais s'il l'est, c'est non pas du fait des hommes, non pas par choix particulier d'un individu, mais du fait même de Dieu, par la grâce de Dieu qui l'a appelé. Paul ne rate pas dans ses lettres une occasion de rappeler qu'il est apôtre et que c'est ainsi qu'il s'adresse avec autorité aux communautés, mais en même temps, il souligne toujours combien son statut lui vient de la miséricorde toute gratuite de Dieu, alors que lui-même ne la méritait pas, au contraire, était même un persécuteur de l'Église.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire du chemin de Damas?
Les avis divergent quelque peu, les avis divergent toujours d'ailleurs sur ce genre de point, savoir quand a eu lieu cet événement. Alors donc que Paul était mandaté par les grands prêtres de Jérusalem pour aller mettre aux arrêts les chrétiens dans la grande ville de Damas, aujourd'hui dans le pays dans l'état de Syrie, Paul, donc chemin faisant, se retrouve interpellé par une voix venant du ciel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il tombe à terre, demandant « Qui es-tu, Seigneur ?» Comprenant, si je peux me permettre cette possible explication de ce texte, très ramassé, très dense, très percutant, difficile à comprendre, « Qui es-tu, Seigneur ?» comme une manière de nous montrer que à la fois Paul comprend très bien que la voix qui l'interpelle est la voix divine, mais en même temps, « Qui es-tu ? Dans quelle réalité humaine es-tu présent, Seigneur ?» pour que mon action ait pu te blesser, ait pu te persécuter. Je suis Jésus le Nazaréen. Et donc révélation à Paul, très certainement, et du mystère de l'incarnation, et en des termes plus contemporains ou modernes, du Christ continué, qui ne fait qu'un, avec tous les siens. Et donc quand Paul blesse la chair d'un chrétien, c'est le Christ lui-même qui le meurtrit. Paul, écrasé par la voix divine, par la lumière qui l'a saisi, écrasé par l'événement, se relève difficilement, il ne voit plus, on le conduit, et c'est un homme pauvre, affaibli, tâtonnant, qui entre à Damas. Il restera ainsi 3 jours, le chiffre, la durée de la résurrection, jusqu'à ce qu'un des chrétiens, laborieusement convaincu par une révélation divine, Anani, vienne imposer les mains à Paul, lui rendant la vue, lui ouvrant la voie du baptême et l'itinéraire de croissance qui sera le sien pour que l'apôtre puisse atteindre sa pleine maturité. L'événement donc de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, c'est en un sens une conversion. En même temps, il faudrait être prudent avec ce terme, parce que Paul était déjà un homme intimement et profondément désireux de servir Dieu et de défendre la cause de Dieu. Seulement, comme il le dira lui-même dans une situation quelque peu différente, il avait un zèle mal éclairé.